La maturité, c'est apprendre à s'éloigner des gens et des situations qui menacent votre paix, votre dignité, vos valeurs morales et votre personne. Ce générique ne vous trompe pas, cette voix que vous écoutez, encore moins, c'est bel et bien votre émission Interligne qui plante son décor. Alors, quoi de plus normal que de réajuster le volume de votre poste récepteur? Auditeurs et auditrices de la 105.5 MHz, sentez-vous salués et bienvenue à cet autre numéro de votre émission Interligne. Interligne, dans son contenu, aborde également des sujets liés à ce qui constitue les nouvelles modes, les nouvelles habitudes observées chez les populations. Les incubateurs du Sahel, tape à l'œil et vide ton sac, toujours au rendez-vous quand il s'agit d'Interligne. Nous allons, dans le cadre de la rubrique Les incubateurs du Sahel, dérouler le tapis rouge à la start-up ESA. Attendez, Energetic Solutions for All, une structure qui propose des solutions innovantes dans le domaine du bâtiment et de l'énergie renouvelable. Et ça, c'est quoi exactement? Son promoteur Ulrich Tapi est dans le fauteuil de l'invité pour nous en dire davantage. Nous allons parler d'un phénomène de plus en plus récurrent, celui de l'exode rural des jeunes. Causes, conséquences et pistes de solutions, on en parle dans la rubrique « Tape à l'œil ». La prise en charge d'une fille par son petit ami dans le but de l'épouser plus tard, est-ce une bonne chose? Oui ou non, on en parle dans le cadre de la rubrique « Vide ton sac ». Maxino est à la mise en onde de cette émission, Steve Feuby à la réalisation, David Bayan à la coordination générale. Je suis Lydie Iudata à la présentation. Installez-vous confortablement. Annonçons en titre, amis auditeurs, la rubrique Les incubateurs du Sahel déroule son tapis rouge cette semaine à la start-up ESA, Energetic Solutions for All, une structure qui fait dans le domaine de l'eau, de l'énergie et du bâtiment à travers la réalisation des forages à énergie solaire, l'électrification solaire, la purification d'eau et, pour ne citer que cela. En place depuis 2 ans déjà, la structure propose plusieurs solutions novatrices, utiles et importantes. Soucieuse de la santé de la population, l'entreprise ESA est parvenue à concevoir un potabilisateur d'eau à énergie solaire. Afin d'en savoir plus, je vous propose d'écouter cet entretien mené avec son promoteur Ulrich Tapi. Ulrich Tapi, vous êtes entrepreneur, produit de l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. porteur du projet ESSA, Energetic Solutions for All. Merci de répondre présent à notre invitation.
Merci bien, c'est un plaisir.
D'accord. Dites-nous premièrement, ESSA, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement?
Oui, ESSA, premièrement, je vais commencer par la signification du sigle. Mm-hmm. ESSA signifie Energetic Solutions for All. Oui, ESSA, c'est une start-up qui est née de la volonté des jeunes à apporter des solutions dans le secteur eau, énergie et bâtiments.
Quels sont vos domaines, vos champs d'action concrètement?
Oui, au sein de l'entreprise ESSA, c'est un groupement de jeunes. Nous faisons dans le secteur des énergies, dans le secteur de l'eau et dans le secteur du bâtiment. Et dans le secteur des énergies, nous proposons des solutions en termes de pompage d'eau solaire et au système solaire, en termes d'électrification solaire, mm-hmm. et aussi en termes de confort énergétique, à savoir à travers l'électrification, à savoir l'installation des systèmes de froid et climatisation. Et dans le secteur de l'eau, nous proposons des solutions de traitement des eaux. Par exemple, l'équipement que nous avons réalisé, le potabilisateur d'eau solaire, qui à son niveau assure le traitement des eaux, des puits, des forages et des maillots, insalubres à la consommation et qui est la cause des maladies hydriques, à savoir le choléra, qui fait des ravages, dont les chiffres sont très alarmants, font très mal. Mm-hmm. Oui, et à savoir également le traitement au niveau chimique et au niveau bactériologique. Ça, c'est ce qui a trait à l'eau. Et nous ambitionnons également de commercialiser non seulement les équipements de traitement des eaux, mais aussi de vendre l'eau potable à des systèmes, grâce à des systèmes de recharge d'eau et avec des paiements réguliers en fonction des besoins de consommation des futurs clients. Et à ce qui a trait aux bâtiments, aux travaux du génie civil, nous proposons aux clients des plans déjà tout faits et les accompagner également dans la construction de leurs différentes infrastructures, à savoir des bâtiments pour habitation, des centres de santé, des écoles et j'en passe.
Vous avez souligné tout à l'heure un aspect, vous avez mis sur pied un potabilisateur d'eau. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire?
Oui, le potabilisateur d'eau, je vais commencer d'abord par la genèse. À mon arrivée à Marois, après le baccalauréat, mm-hmm. à la fin d'année, j'ai souffert de la typhoïde, d'un haut niveau de typhoïde. Et c'est après le traitement que je me suis dit, si j'ai tant souffert de cette maladie, et également même depuis étant au sud, on entendait des chiffres de choléra qui faisaient les ravages dans le Grand Nord, mm-hmm. avec les chiffres de 2009, on a enregistré près de 500 décès suite de choléra. C'était mmh. très triste. On s'est dit, est-ce qu'on va rester là, observer la population mourir ou bien il faut agir? Et agir maintenant pour nous était de proposer un équipement qui est autonome sur le point de vue énergétique. Parce qu'également, après avoir fait des tours dans des localités un peu plus éloignées, dans des villages, des campagnes, ils n'ont pas ça l'électricité. Mmh. Et proposer un équipement qui travaille uniquement à courant électrique n'aurait pas pour nous été quelque chose d'intéressant. Ce qui fait le potabilisateur d'eau solaire en lui-même est autonome du point de vue énergétique. Ceci dit quoi? Pour une eau initialement prise dans un puits, un maillot ou bien un forage, on le fait passer à travers notre système et à la sortie, il est buvable, l'eau est buvable. Et si l'eau contient les virus et les bactéries, ils sont détruits. Si l'eau contient les produits chimiques qui sont retenus, de telle enseigne que le citoyen lambda qui consomme l'eau issue du système de traitement n'est plus exposé aux maladies hydriques.
D'accord. On retrouve sur le marché plusieurs solutions pour filtrer de l'eau. Qu'est-ce que votre potabilisateur a d'innovant? Qu'est-ce que vous faites de particulier?
Ce que nous faisons de particulier, c'est, vous allez remarquer également dans les stratégies nationales de développement, la SND30, la politique est de promouvoir le MIC, le Made in Cameroun. Et cela à travers des innovations, à travers l'utilisation des matériaux locaux, la valorisation des matériaux locaux pour en faire des solutions pour résoudre des problèmes. Mmh. Les équipements que nous importons, certes, apportent solution au traitement des eaux, mais ce qu'on utilise communément appelé des filtres ont pour particularité de retenir juste la partie visible. Or, au-delà du visible, il y a l'invisible à l'œil nu, à savoir les micro-organismes, virus et bactéries, qui sont même la cause primaire des maladies comme la typhoïde, le choléra, les infections urinaires chez les enfants, qui causent près de 500 décès en Afrique subsaharienne journalièrement. Et ces éléments dont on ignore, notre système les neutralise et les détruit.
D'accord. Décrivez-nous le mécanisme de fonctionnement de ce potabilisateur.
Oui, le potabilisateur d'eau, comme j'ai si bien dit, il assure les trois niveaux de traitement de l'eau. Initialement, quand l'eau est puisée dans un puits ou un maillot, il y a un premier réservoir. Le réservoir situé en amont du système, un peu comme on voit avec les systèmes de pompage d'eau avec les châteaux. On suppose que ça, c'est l'eau insalubre à la consommation. Maintenant, l'eau va descendre progressivement par un procédé de gravitation et subit le traitement physique parce qu'il y a des filtres de sédimentation qui sont installés à l'amont. Ensuite, pour suivre son traitement bactériologique, qu'est-ce qui dit bactériologique, c'est où les virus et les bactéries sont détruits. Et là, c'est l'énergie solaire qu'on exploite. Et le système étant autonome, on l'a automatisé. Ceci dit quoi? Si au préalable, on a pris l'eau, on a mis dans le réservoir en amont, l'eau insalubre à la consommation, on n'a pas besoin qu'à tout moment, on va vérifier est-ce que l'eau est traitée ou bien est-ce qu'il faut encore mettre l'eau dans le réservoir. Non, tout se fait automatiquement. Il suffit seulement de mettre l'eau non traitée et tout au long de la journée, le système travaille de façon automatique.
Oui. D'accord. Vous n'êtes certainement pas le seul à tenir cette start-up. Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous fonctionnez?
Oui, au sein de la start-up, d'abord, j'aimerais citer d'abord un enseignant qui m'est très particulier, Dr Tchofo Étienne, un enseignant à Polytechnique, qui a cru en moi et qui a su me tenir aussi par la main pour que ce projet aboutisse à ce niveau déjà. Oui, nous travaillons, c'est un de nos mentors. Et au sein de l'entreprise, avec mes collègues, nous sommes organisés. Il y a ceux qui sont responsables du côté eau, du secteur eau, dont j'en fais partie, à travers l'installation des systèmes de pompage d'eau et aussi à travers le traitement. Et nous avons proposé une solution pour le traitement qui est le potabilisateur d'eau solaire. Côté bioénergie, une partie également du secteur énergétique, on produit le charbon écologique qui a l'air d'être déjà commercialisé. La demande va grandissant, mais l'offre est faible pour le moment. Ce qui fait une main tendue est faite aux partenaires pour investissement, pour agrandir la chaîne de production. Et ce qui a trait aussi au côté bâtiment, il y a également des spécialistes au sein de l'entreprise qui sont chargés de cela.
Vous êtes combien en tout alors?
Non, pour le moment, nous sommes à 4 et nous comptons avoir davantage de partenaires, former davantage des ambassadeurs qui seront des relais dans des localités éloignées et dans les différents départements de l'extrême nord premièrement et du Cameroun en général.
Vous avez un siège?
Oui, nous avons un siège du côté de Yonko, les ponts basculent.
D'accord. Oui. Et vous êtes en place depuis combien de temps déjà?
Ça part pratiquement à 2 ans, depuis l'année passée.
Ces machines dont vous fabriquez sont à la portée de tous, parlant du coût.
Oui, parlant du coût, les équipements sont à la portée de tout un chacun et le potabilisateur en lui-même est adaptable en fonction du besoin. Donc, plus la consommation en eau est importante, il faudra des systèmes avec une grande capacité de traitement et qui pourra assurer le besoin en eau. Mais à côté de cela, sachant qu'il y a des populations démunies qui n'ont pas assez de moyens, nous allons nous charger également de commercialiser l'eau déjà traitée. À ces ménages-là, ils pourront juste souscrire un abonnement pour avoir l'eau potable au quotidien.
Vous ne parlez pas du prix?
Oui, comme je vous ai dit, le prix du système en lui-même, c'est adaptable. Ce n'est pas comme un équipement tout fait. Mais sinon, pour des personnes, par exemple, qui sont raccordées au réseau et qui se plaignent essentiellement de la qualité de l'eau en termes de couleur et d'odeur, nous allons leur commercialiser le filtre biologique que nous fabriquons, qui est vendu à hauteur de 5000 francs. Mais sinon, pour des zones qui n'ont même pas accès à une eau acceptable, où la qualité est mauvaise sur tous les plans physiques, chimiques et bactériologiques, ils auront à se procurer un potabilisateur d'eau solaire dont la marge des prix pourra aller de 100000 francs à plus.
D'accord. Vous intervenez seulement dans la région de l'extrême nord ou alors vous avez d'autres zones cibles également?
Oui, nous avons d'autres zones visibles, ce qui fait, en tant qu'entrepreneur, nous ne sommes pas retournés sur nous-mêmes, nous travaillons avec des partenaires. Des partenaires, genre que si des activités sont menées peut-être dans une autre localité, on est en contact avec les partenaires dans les différentes régions pour agir et proposer des solutions à la demande de la clientèle.
Partout où le besoin se présente.
Partout où le besoin se présente.
D'accord. Start-upper à votre jeune âge, on suppose que ça n'a pas été facile à la base. Parlez-nous de votre expérience. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté quotidiennement?
Oui, l'une des premières difficultés, c'est que plus de temps passe, on observe, on a l'impression qu'on ne croit plus à la jeunesse. Ce qui fait quand tu es jeune, tu te présentes, on dit que mais qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Est-ce qu'il a le contenu? Est-ce qu'il a le potentiel? Mais au fond, avec mon expérience, je sais que la jeunesse a un potentiel. Il faudrait que un tout petit peu, on croit à la jeunesse et qu'on les confie des tâches, qu'on les confie et qu'on les fasse confiance pour voir les grandes réalisations. Mmh. Ce qui fait maintenant, à notre niveau, avec les réalisations qu'on a déjà eu à faire du côté du crop sec, avec le système de pompage d'eau complet, du côté de certaines paroisses, du côté de la délégation des petites et moyennes entreprises, où on a eu à faire des travaux avec l'appui du régional, des petites et moyennes entreprises. Nous comprenons qu'avec le temps, au fur et à mesure, on croit en nous, vu nos réalisations. Et également, cette année, on a eu à accueillir à deux reprises le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, dans le cadre des solutions de cuisson propres dans le Grand Nord, Nord et Extrême Nord. Mmh. Et notre solution était la meilleure. Oh. C'est dur, mais ce n'est que la persévérance, le courage, l'audace d'oser qui nous donne la force d'avancer.
D'accord. Quelles sont vos plus grandes réalisations à ce jour?
Non, nos plus grandes réalisations, il y a le système de traitement de pompage d'eau que nous avons réalisé à hauteur de près de 5 millions. Et il y a également certains qui sont en cours, ce n'est pas encore validé, je préfère conserver les chiffres. Mm-hmm. Mais du moins, est-ce que nous pouvons aller au-delà? Nous pouvons aller au-delà, réaliser des travaux à hauteur de 50, 100, 150 millions. Ce qui est bien, que l'équipe est bien constituée et nous sommes ouverts à travailler avec des personnes également qui sont prêtes à faire des grandes réalisations, tout comme nous.
D'accord. Oui. Quels sont, dites-nous, les défis, les ambitions? Quels sont vos projets à venir?
Non, nos ambitions, je vais commencer par des objectifs. Les objectifs pour des mois à venir, d'abord, seraient de multiplier les sensibilisations dans des communautés. Le but étant de former les jeunes qui seront des points de relais dans ces différentes communautés-là et qui pourront produire la matière pour la fabrication du charbon écologique. Ça, c'est un des objectifs. L'autre objectif serait que d'ici la fin d'année, on puisse collecter le maximum de fonds pour lancer l'industrie de fabrication de charbon écologique. Et à côté de cela, il y a le projet eau. Le projet eau, vu que nous nous contentons pas uniquement de fabriquer des équipements et les commercialiser, il faudrait toute une chaîne qui sera là pour produire de l'eau potable que nous allons vendre, un peu comme on vend le gaz. Chaque fois, on recharge. Donc, il y a des ménages qui auront des bidons. Quand l'eau finit maintenant, on fait les tours dans des secteurs pour recharger. On prend le bidon vide et on redonne le bidon plein. Et on traite le bidon ainsi de suite. Donc, toute une chaîne. Donc, vous voyez qu'il y aura des gens qui seront là juste pour produire de l'eau potable, d'autres qui sont là pour transporter, d'autres qui sont là pour commercialiser auprès des ménages.
Comment se passe la commercialisation de vos potabilisateurs d'eau? Vous les faites sur commande? Où est-ce qu'ils sont commercialisés?
Non, pour le moment, c'est sur commande. Pour le moment, c'est sur commande.
D'accord, donc l'intéressé passe sa commande et...
Oui, l'intéressé nous contacte et on travaille dessus.
D'accord. Nous tendons vers la fin de cette émission, monsieur. Dites-nous, quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse qui nous écoute présentement?
Oui, premièrement, d'abord, j'aimerais d'abord acclamer les efforts que certains jeunes font au quotidien. Parce que c'est vrai, la jeunesse avec le temps perd espoir, mais il y a ceux toujours qui ne cessent de se démarquer, tout comme moi et mes collègues. Le message que je puisse les adresser, c'est d'avoir le courage. Et quand ils sont bloqués, se tourner vers des personnes qui sont déjà avancées qu'eux pour prendre conseil. Moi, je suis ouvert à mon niveau déjà. Ce que je fais au quotidien, que je donne des conférences, je donne des formations pratiques dans le domaine entrepreneurial. Parce que j'ai commencé d'abord, avant d'arriver au niveau des start-up, j'ai commencé beaucoup à faire des associations où j'ai beaucoup appris à ce qui a trait à la prise de parole en public, la communication, la capacité à aller vers des aînés, prendre conseil, la capacité à oser, la capacité à planifier des activités et s'y tenir à animer des groupes. Ce sont des compétences que j'ai acquises en association. Et aussi, ce que je puisse ajouter, c'est constamment également, si on peut prévoir des tranches d'émissions, la minute de l'entrepreneur, où on peut communiquer. Ça peut être des messages audio, ça peut être des messages lus, pour que chaque fois, les jeunes puissent être plus en contact de la chose. Parce que mieux on communique, plus les jeunes seront intéressés. Et également, on va limiter le taux de chômage et contribuer de façon indirecte même à la création d'emplois.
S'il faille à ce qu'on veut vous venir en aide, quelles seraient vos doléances, dites-nous?
Nos doléances, d'abord, c'est situé au niveau de la communication. Parce qu'avant d'arriver au niveau financier, il faut d'abord communiquer, il faut d'abord l'information. Quand il dit communication, il faudrait que de temps à autre, constamment, on puisse parler du secteur des énergies, des opportunités qui s'offrent, non seulement aux jeunes, mais également aux potentiels bénéficiaires en termes de solutions en eau, solutions en énergie et également solutions dans le domaine du génie civil. Et à côté de ça également, nous avons la main tendue pour un accompagnement sur le plan financier pour la réalisation de l'industrie de fabrication du charbon écologique et de l'industrie de fabrication des systèmes de traitement des eaux avec commercialisation de l'eau potable.
D'accord. Comment maintenant peut-on vous joindre? Vous avez certainement quelques numéros, une page Facebook.
Oui, oui, nous avons une page Facebook pour les numéros. Pour les numéros, je réponds au 697 74 86 28 ou bien le 682 00 00 24. Et pour la page Facebook, vous partez sur Facebook, vous tapez ESA Service et vous allez voir notre page et voir ce qu'on fait, ce qu'on publie constamment au quotidien.
D'accord. Ulrich Tapi, vous êtes le porteur du projet ESA, Energetic Solutions for All. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci aussi, mais ce fut un plaisir de passer à la radio au CERE.
Vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous vous armez du courage, de la volonté et de la détermination. Rien n'est impossible à qui rêve et ose. Le travail est la seule clé, le seul moyen qui permet de se démarquer. Les jeunes doivent davantage multiplier des stratégies, des idées afin de mieux s'en sortir dans un contexte de manque d'emploi. Question d'être autonome soi-même. Ulrich Tapi, un très bel exemple à copier. Alors, n'hésitez pas, chers jeunes. Et ça offre également des formations, il l'a si bien dit. Vous pouvez joindre l'entreprise ESA au numéro 697 74 86 28 ou le 682 00 00 24 ou encore sur leur page Facebook ESA Service.
L'exode rural, appelé aussi migration rurale, désigne le déplacement durable de la population quittant les zones rurales pour aller s'installer dans une zone urbaine. Force est de remarquer que de plus en plus, les zones rurales se vident des gens, des jeunes en particulier, des jeunes assoiffés du bien-être et pensant que seule la ville est en mesure de le leur offrir. La ville offre certes plusieurs ouvertures et avantages aux jeunes, généralement en quête d'un emploi ou des meilleures conditions de vie. La précarité et la misère qui caractérisent les villages, l'absence de moyens financiers, l'absence de l'électricité,
L'absence d'eau potable, des loisirs justifie la plupart du temps le choix, on va le dire, risqué, attisé aussi parfois de ceux qui reviennent souvent de la ville.
Le déplacement des jeunes du village vers la ville est une bonne chose parce que les jeunes se déplacent pour une meilleure condition de vie. Donc ils viennent vers la ville pour chercher du travail parce qu'au village, on peut dire qu'au village c'est difficile pour un peu. Donc ils se déplacent vers la ville pour trouver la meilleure condition de vie, pour se chercher, pour trouver du travail, pour être assis et construire une famille.
Le déplacement de jeunes du village vers la ville n'est pas une bonne chose. Moi, à mon avis, je dis que cela entraîne beaucoup de nombreuses conséquences, à l'extérieur de fuite de cerveau vers le côté du village. Et vers le côté de la ville, nous observons une boom démographique, là où la population ne parvient pas à bien survivre et maintenir.
Je dirais que l'exode rural est une bonne chose. Vu sa définition, on parlait de la recherche du bien-être, l'amélioration d'une vie, des conditions de vie favorables, mais paisibles.
Moi, je veux dire que l'exode rural est une bonne chose. Le déplacement des jeunes vers la ville est une bonne chose. Dès sa définition, on entend que c'est le déplacement massif de population vers la ville à la recherche d'une meilleure condition de vie. Pourquoi pas chercher cette vie-là, une vie paisible, une vie favorable? Pourquoi pas? Il est bien vrai qu'on part chercher la meilleure condition de vie. Cela ne s'arrête pas ici. On peut revenir au village et le développer.
Nous constatons de plus en plus l'exode rural, surtout celle des jeunes. Ceci dû à un certain nombre de phénomènes. Les jeunes partent en ville se chercher. Des fois, c'est des jeunes diplômés qui doivent aller chercher un emploi. D'autres partent pour faire le gardiennage. D'autres cherchent à mener une vie meilleure, trouver là où ils peuvent mieux s'épanouir. Puisque le village, selon les jeunes, ne répond plus à leurs désirs, à leurs besoins. C'est la raison pour laquelle ils partent en ville. Mais en allant en ville, ils courent beaucoup de risques. Où est-ce qu'ils seront donc logés? Une question qui reste. D'autres vont pour des activités telles que le gardiennage, autres qui les exposent à des cas de vol à main armée. De fois même, d'autres se retrouvent en train d'entrer dans des sociétés secrètes parce que ils doivent chercher où survivre. Et nous pensons que ce n'est pas un bon phénomène, ce n'est pas du tout bien pour les jeunes. Ils oublient qu'il n'y a pas mieux que le chez-soi. À la maison, on ne paye rien pour ce qui est donc de loyer. L'eau gratuite, tout est gratuit. Mais il faudrait que les jeunes prennent donc cette conscience sur le fait qu'ils doivent s'engager dans des métiers tels que l'agriculture, donc développer leur localité pour rendre ça vivable. Donc, en faisant cela, ils pourront donc laisser ce phénomène donc d'exode rural. Parce que les jeunes de plus en plus ne veulent pas tenir la roue. C'est là le véritable problème. Nous voulons également ajouter ceci. La terre ne trompe pas. Que les jeunes comprennent qu'on peut faire le jardin, par exemple, et trouver de quoi manger, subvenir à ses besoins. Ce n'est pas nécessairement en ville qu'on peut mieux vivre. Donc, de grâce, que les jeunes rentrent sur leur valeur culturelle dans leur village pour le développer dans leur village. Merci.
Moi, je pense que l'exode rural des jeunes n'est pas du tout une bonne chose. Parce que ces derniers viennent en ville juste pour encombrer la ville pour rien. Au lieu de rester au village, c'est pour chercher les moyens pour survivre. Comme fait peut-être dans l'agriculture, vous voyez un peu. Déjà, se débrouiller parce que la terre ne trahit pas. Nous le savons tous. Ils partent en ville pour commettre des actes négatifs, d'autres partent juste pour faire du shooting, comme on dit souvent. Donc je pense que d'aller faire le shooting, qui ne va nous amener nulle part, mieux rester au village et se battre avec ce qu'on a là-bas, pour au moins se être garanti dans l'avenir.
Pour moi, je dirais que Oui et non en même temps. Donc c'est-à-dire que ça a les inconvénients et ça a les avantages. On va d'abord lancer avec le côté d'avantage. Avantage comment? Prenons l'exemple que dans le village, il n'y a pas d'école. Donc c'est-à-dire que pour que le développement parvienne là-bas au village, c'est un peu difficile. Donc les jeunes migrent du village vers la ville pour aller poursuivre les études et devenir quelqu'un de meilleur pour venir demain et développer sa localité. Donc ça c'est un exemple. Et prenons dans le cas des inconvénients. Disons que c'est un inconvénient pour la population donc du lieu de départ parce que non seulement ça réduit le main d'œuvre et ça crée aussi que ça réduit la population de cette localité aussi. Parce que beaucoup plus on se rend compte que les travaux champêtres, c'est-à-dire que l'agriculture qui se passe beaucoup plus au village, se font beaucoup plus par les jeunes. Donc ce sont les jeunes qui sont les main d'œuvre de cette localité-là. Donc les jeunes font la force de la localité. Mais le fait que les jeunes maintenant migrent du village vers la ville pour chercher du travail, pour une vie meilleure, ça cause problème au village parce que les grands-parents se retrouvent sans main d'œuvre. Donc ils restent là, ils souffrent en allant au champ, alors que si c'est que les jeunes étaient là présents, ils devaient prendre en charge les travaux de l'agriculture.
Dans la plupart des cas, ces jeunes-là qui quittent du village pour la ville, pour se chercher là-bas en ville, parce que ils n'ont pas peut-être d'entrée au village et il y a une certaine pauvreté là qui se vit au village, qui ne dit pas son nom. Par exemple, tu fais peut-être ton agriculture ou bien tu fais l'élevage, tu les vends peut-être au village. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas du coup, les consommateurs vont acheter ça à bas prix et du coup, il n'y a pas d'évolution. Tandis que là-bas en ville, il y a non seulement la surpopulation, et le secteur informel passe très bien. Et là-bas, il n'y a pas que... Bon, tu sais qu'on sait tous que le village, c'est la famille. Donc, tu ne peux pas faire un truc que tu vas taxer parce qu'ils vont dire que mais, c'est la famille. C'est la famille. Pourquoi tu es cher? Pourquoi tu es méchant? Mais par contre, en ville... Et il y a aussi un truc que l'État camerounais n'a pas décentralisé certains trucs. Donc, pour faire un truc, il va falloir peut-être aller en ville parce qu'il n'y a pas peut-être cette institution-là dans mon village ou bien dans mon arrondissement ou mon département. Il faut absolument que j'aille peut-être à Yaoundé, à Douala pour chercher à passer ce dont j'ai envie de faire là. Et du coup, c'est pour cela donc, que la plupart des jeunes quittent du village pour la ville.
Le village, tout comme la ville, regorge d'importantes opportunités et avantages. L'on peut vivre au village et mener une vie stable. Un déplacement massif des populations du côté de la ville ne favorise pas le développement de nos villages, surtout que, une fois en ville, beaucoup oublient leurs racines. La solution qui se présente une fois encore est l'agriculture, comme l'a dit le président de la République, son Excellence Paul Biya. La terre ne trahit pas. L'agriculture est un métier qui nourrit son homme comme tous les autres. Le bien-être ne se trouve pas seulement en ville. Le développement recherché en ville est avant tout le résultat des hommes. Chacun, dans son milieu, doit travailler et participer au développement de sa localité pour l'amélioration des conditions de vie. Financer les études d'une fille, la prendre en charge dans le but de l'épouser est une bonne ou mauvaise idée? Cette question posée au public a suscité plusieurs réponses. Pour certains, les parents de la fille doivent pleinement jouer leur rôle et prendre soin d'elle jusqu'à son mariage, car selon eux, dans ce genre de situation, les choses tournent généralement au vinaigre et créent des tensions entre ces derniers, voire entre les familles même en question. D'autres trouvent par contre que c'est un fait très normal et une preuve d'amour de ce dernier envers sa partenaire. Pour eux, cela témoigne du soutien qu'il pourra, une fois officiellement marié, lui apporter. C'est aussi aux yeux des parents de la fille une garantie pour cette dulcinée. Je vous propose d'écouter quelques avis recueillis.
La prise en charge d'une fille par son fiancé ou par un homme avant le mariage n'est pas conseillée. Les raisons sont simples. Si jamais les deux ne parviennent pas à se marier, ça risque davantage de créer des situations entre les deux. Deuxièmement, le matériel, si on le met tellement au devant de la scène, le jour où il n'y a plus le matériel, il n'y aura plus vrai amour. Donc, pour qu'il y ait donc liberté des deux partenaires, des couples, il faudrait que, s'il faut l'aider, qu'on sache que c'est pour aider la fille et ce n'est pas moyennant donc le mariage. Mais si c'est un prêt qu'on fait à la fille, il faudrait que ce soit bien défini, que c'est un prêt pour que la fille, quand elle grandit, elle sait que telle personne m'a aidé dans mes études, dans ma vie, je dois lui rembourser telle ou telle autre chose.
Moi, je pense que la prise en charge d'une fille par son gars n'est pas une mauvaise chose. Parce que si le gars a les moyens pour le faire et qu'il est vraiment apte, pourquoi ne pas prendre vraiment la charge de sa petite amie, vu qu'il aimerait vraiment s'engager avec elle. Et un homme peut prendre ta charge pas simplement parce que vous êtes en relation, vous voyez un peu. Donc, ça peut d'abord être par amour fraternel. Il peut le faire sans attendre quelque chose en retour. Il y a beaucoup qui le font. Donc, étant donné qu'on rêve construire un avenir avec la personne, pourquoi ne pas l'aider aussi à réussir en prenant sa charge. Je ne trouve pas de mal en ceci. Et tout comme c'est pas forcément obligé que la fille te donne quelque chose en retour. Parce qu'on dit que quand on aime, on n'attend rien en retour. Donc, l'homme peut prendre ta charge juste par amour fraternel ou bien parce qu'il t'aime et il aimerait te voir réussir. Et c'est même là le vrai amour.
Pour moi, je dirais oui. Dans le contexte où l'homme a la possibilité de prendre soin de la femme sans problème, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de problèmes financiers. Parce que si déjà tu t'engages dans une relation avec une femme, ça signifie que tu l'aimes. Ça signifie que tu es prêt à prendre soin de la femme, à la fournir tout ce qu'elle a besoin, sans toutefois prendre compte du fait que vous n'êtes pas légalement marié ou bien le fait que vous n'êtes pas marié du tout. Parce que la relation qui existe entre l'homme et la femme, c'est une relation un peu complexe. Parce qu'il y a différents types de relations, la relation par intérêt, la relation par amour, tout ça. Oui, moi je trouve que c'est trop normal qu'un homme prenne totalement soin de sa femme. Ça signifie que non, tu es prêt à la rendre heureuse, à la donner tout ce qu'elle a besoin.
Moi je trouve que c'est pas normal. Prenons un cas simple. Un homme, par exemple, il est en train de se chercher. Il se cherche. On ne prend même pas, on ne touche même pas les cadres que non, il est déjà assis économiquement parlant. C'est quelqu'un qui se bat, il est là dans ses petits boulots et tout et tout. Maintenant, il décide de s'engager avec une fille. Il s'engage avec la fille, il prend en compte les problèmes de la fille, donc il prend la fille en charge, ses études, tout ce qui concerne sa vie. Maintenant, après un moment, la fille s'intègre socialement. Elle devient maintenant indépendante économiquement, et financièrement bien sûr. Donc par la suite, elle commence à négliger le gars, soit disant que non, le gars effectivement ne sont plus dans le même cadre social, que non, ce n'est plus son niveau, comme on dit souvent. Que non, le gars, si il est bien vrai que je l'aimais avant, maintenant c'est fini. Parce que non, elle se croit déjà que non, elle a atteint la maturité économique. C'est un peu cela. Et prenant maintenant le gars là, quel sera son ressenti? Vraiment, et à chaque fois, j'aimerais vraiment qu'on sensibilise dans ce cadre. Merci.
Un homme peut bien prendre la charge d'une fille, s'occuper d'une fille. Certainement pas objectivement dans le but de l'épouser par après, parce qu'on sait tous qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme, les gens changent. Il peut l'aider juste là comme ça, là, parce qu'il aide peut-être son prochain, il aide peut-être, je ne sais pas, une personne, comme il peut aider n'importe qui, pas exactement là, le but de l'épouser après, parce qu'il peut faire comme ça, là, qu'il a une idée derrière la tête, bon, je paye ses études parce que demain, elle sera ma femme, et donc, plus tard, la fille là, ne l'épouse pas. Elle peut faire cela, mais pas jusqu'à signer que non, certainement non, je dois épouser cette fille. C'est pas parce que, comme on le dit souvent, personne n'a sa place assurée. Et comme on sait tous, les filles sont les filles. Comme nous sommes souvent comme nous sommes là. S'il veut, il aide, il fait tout, mais pas quand même. Même s'il vient, il doute la fille là, qu'il fait tout. Après, c'est possible que la fille refuse après, donc... Il peut juste l'aider comme il peut aider n'importe qui, pas forcément l'épouser après.
Vous avez, amis auditeurs, suivi ces quelques avis et avez certainement constaté que la question de savoir si prendre en charge une fille dans le but de l'épouser est oui ou non une bonne idée a été sujet d'un débat controversé. L'on assiste très souvent aux situations où une fille est totalement prise en charge pendant beaucoup de temps par son petit ami, mais au final la relation se solde par une séparation plutôt qu'à un mariage comme prévu. Ceci nous interpelle tout simplement à bien étudier nos partenaires avant de se lancer véritablement. Être sûr de ce que l'on ressent l'un pour l'autre est plus qu'important, mais pas suffisant. Des fois, il faut s'apprêter, il faut être prêt à accepter une rupture bien que l'on ait investi sur son partenaire. Lorsqu'on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Madame, monsieur, auditeurs et auditrices, interligne, aussi vite que commencé, tire vers sa fin. Dans le cadre de la rubrique Les incubateurs du Sahel, nous avons déroulé le tapis rouge à la start-up ESA, entendez, Energetic Solutions for All, une structure qui propose des solutions innovantes dans le domaine du bâtiment et de l'énergie renouvelable. Dans Tape à l'œil, nous avons parlé d'un phénomène qui est de plus en plus récurrent, celui de l'exode rural. On a parlé de ses causes et de ses conséquences. Financer les études d'une fille, la prendre en charge dans le but de l'épouser, est-ce une bonne ou mauvaise chose? C'était le sujet au cœur de la rubrique « Vie de ton sac ». Maxino était du côté de la mise en onde, Steve Feuby à la réalisation, David Bayan à la coordination générale. Je suis Lydie Iudata à la présentation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission Interligne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.